je vais pas faire durer le suspense. Le flic a été relaxé totalement.
Si les patrons, les moyens qu'ils ont aujourd'hui, ils ont les lois avec eux, les médias avec eux, le gouvernement avec eux.
On est là de revendiquer nos droits et nos valeurs, nos respects.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous écoutez l'actualité des luttes.
Comme tous les jours, du lundi au vendredi.
De 12h30 à 13h30.
Sur FPP.
Fréquence Paris Pluriel 106.3.
On regroupe les collègues, on arrête de travailler, on discute.
Le salarié est vu comme une machine, donc il ne doit pas se rebeller, il ne doit pas avoir d'état d'âme, il doit juste produire et fermer sa gueule.
L'actualité des luttes est une émission d'information qui donne la parole aux acteurs des luttes.
Ah oui, c'est bien, parce que là, ça dérange. Ah oui, ça dérange sérieux. Mais il faut persévérer, il faut pas s'arrêter à une action.
Nous ne lâcherons pas cette police tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population.
Il y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Et là, c'était plus TF1 et tous ces blaireaux de médias là.
Cette justice à géométrie variable, elle est inadmissible et c'est normal qu'elle produise de la colère.
On en a marre, croyez-nous, on en a marre de se faire expulser d'un endroit à l'autre, monsieur.
Ça fait des allures de fête qui dégénèrent.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail à contact@actualitedeslutte.info.
Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
Vous pouvez nous envoyer vos initiatives,
vos appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
En n'oubliant pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. C'est pas en restant en autarcie, là, sur nos petits. Avec nos petites idées, dans nos petits coins, que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, ça marchera pas.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedesluttes.info.
Je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans l'actualité des luttes du lundi au vendredi de 12h30 à 13h30 en direct sur Fréquence Paris Pluriel. Donc aujourd'hui nous allons parler d'international et plus précisément de la guerre russo-ukrainienne, guerre de la Russie contre l'Ukraine qui n'a pas commencé comme certains le pensent le 24 février 2022 mais depuis 2014 et pour en parler je suis aujourd'hui en plateau avec Jean-Marc Royer. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour.
Je vais te laisser te présenter et comment t'en es arrivé à te consacrer à la guerre en Ukraine.
Bon, est-ce qu'on a 3 heures pour que je présente mes 9 vies précédentes?
Un peu moins.
Alors qu'est-ce que je peux dire? Oui, j'étais ingénieur à l'aéroport de Paris, j'étais aussi responsable syndical à un moment donné à Orly. J'ai fait des études d'histoire, de sociologie, de psychanalyse. Et puis, depuis que je ne suis plus esclave salarié, je me suis mis à écrire. Donc là, j'ai écrit un livre sur le nucléaire qui s'appelle « Le projet Manhattan ». Avant ça, j'avais écrit un livre sur la science, « Creuset de l'inhumanité ». Et puis, j'ai 3 travaux en cours, en quelque sorte. 1, la question du rattrapage néolibéral en France. 2, la guerre en ce moment en Ukraine. Et 3, ce que j'appelle la théorie critique radicale, quelque chose de beaucoup plus théorique, quoi. Voilà, voilà un peu où j'en suis.
Et le dernier livre, c'est sur quoi ?
C'est théorie critique radicale, c'est en gros, ça se revendique d'une continuation, si on veut simplifier, de l'école de Francfort. Adorno, Horkheimer, Marcuse, Fromm, etc. C'est-à-dire, bon, en gros aussi, quelque chose qui se situerait dans l'articulation entre marxisme, mais pas le marxisme d'antan, et puis la psychanalyse, et pas la psychanalyse d'antan.
D'accord. Là, on est en train de perdre des gens, donc on va revenir à la guerre en Ukraine. Donc, la guerre en Ukraine, toi, tu la suis pas depuis, comme j'ai dit, pas depuis 2022, mais depuis 2014. Alors, est-ce que tu peux revenir sur les débuts, les origines de la guerre en Ukraine ?
Oui, alors, non, je ne la suis pas depuis 2014, Jean. Je la suis depuis 2022, comme beaucoup, parce que à ce moment-là, j'ai tout de suite pensé que c'était un événement historique important et même capital, en ce qui concerne, en tout cas pour l'Europe. Et puis, je crois que les faits depuis 3 ans ne démentent pas cette intuition. La chose, à mon avis, principale à retenir, enfin, il y a plusieurs choses. D'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut bien prendre la dimension du problème. Aujourd'hui, il y a environ 1 million de victimes de cette guerre depuis le 24 février 2022. Quand on dit 1 million de victimes, ça veut dire des tués, des blessés, des disparus, des deux camps, aussi bien militaires que civils. J'insiste, des deux camps. Bon, ça donne déjà une dimension de ce que c'est. Après, les autres dimensions, il y a beaucoup d'autres dimensions à cette guerre. Bon, tout le monde le sait, tout le monde l'a dit déjà. C'est une guerre qui a été entreprise par un pays qui possède l'arme nucléaire sur le sol d'un autre pays qui, lui, possède 4 centrales nucléaires, dont la plus puissante d'Europe à Zaporijjia. Voilà. Mais le plus important, et qu'à mon avis, on n'a pas, dont on n'a pas vraiment pris conscience, moi non plus d'ailleurs, dès le départ, c'est que c'est, à mon sens, une guerre de type colonial. Mais bon, une guerre de type colonial du XXIe siècle est en quelque sorte à rebours de ce à quoi on était habitué jusqu'au milieu, oui, un peu plus tard même, du XXe siècle. Bon, après, quand on creuse, on voit bien ce qu'était en fait, ce qu'était devenu l'URSS et ensuite ce qu'est devenu la Russie avec Yeltsin et Poutine, etc. Bon, et tout ça, je dois dire aussi honnêtement que dans une certaine mesure et malgré les études que j'ai pu faire, y compris en histoire de l'URSS, je pense que j'étais comme tout le monde, un peu sous la coupe d'une certaine propagande qui visait à nous faire croire que l'URSS, c'était le paradis socialiste qui avait aidé tous les peuples du monde à se libérer. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça. Et en tout cas, ce qu'on peut dire historiquement, l'État russe, ou comme on voudra le dire, le pays, en tout cas, c'est un pays qui a des traditions impériales depuis longtemps, et de facto aussi. Bon, moi, je me souviens très bien quand c'est aussi un pays qui a eu des comportements coloniaux vis-à-vis de, à la fois de ces pays, de ces populations en interne, et puis en externe, avec ce qu'on a appelé, ce qui avait été admis au partage du monde de Yalta, le glacis soviétique. Et donc, j'allais dire, je me souviens qu'en 68, quand la Tchécoslovaquie a été envahie par l'armée russe, moi, la chose que j'ai faite au mois d'août, c'est d'étudier ce qu'étaient les relations économiques entre la Tchécoslovaquie et la Russie. Et là, je suis tombé sur quoi ? Sur ce qui s'appelait à l'époque le Comecon, c'est-à-dire quelque chose qui organisait un échange inégal, typiquement colonial, entre le centre et la périphérie. Sauf que là, le colonialisme n'était pas outre-mer, il était aux portes du pays et à l'intérieur du pays. Et c'était déjà des rapports coloniaux. Bon, après, si on veut rentrer dans l'histoire, l'histoire de l'Ukraine, aussi bien que celle de la Russie, est excessivement compliquée. Rien que celle du XXe siècle de l'Ukraine est aussi elle-même compliquée. C'est un pays qui a traversé au moins 5 ou 6 tragédies avec des millions de morts depuis le début du XXe siècle. Et c'est un pays qui essaye depuis pas mal de temps déjà de se constituer en tant que pays, en tant que nation, même je dirais en tant que peuple. Alors moi je fais très attention avec cette notion de peuple parce que à mon avis elle est très contestable. Mais si on
de
peut
peuple ukrainien ou de peuple
de peuple en général, ouais, parce que si je, moi je pense qu'on peut on peut l'utiliser légitimement dans 2 cas. Le premier qui est en ce moment le cas en Ukraine et dans d'autres pays aussi, par exemple en Palestine, c'est qu'il y a un pays, oui, et toute une population qui est obligée en quelque sorte de faire une certaine unité face à une agression armée extérieure qu'elle a en face d'elle. Et la deuxième, le deuxième cas, c'est quand il y a une révolution ou quelque chose du type d'une révolution, bon, pour la France entre 1789 et 1793, à plusieurs reprises au 19e siècle et en mai 68. Mais là, ça nous ferait rentrer dans des considérations.
Et dans le cas ukrainien, il y a eu les deux, c'est-à-dire une attaque, donc l'attaque russe depuis d'abord hybride en 2014, puis générale en 2022, et la révolution de Maïdan. Il y a une forte similarité avec l'autre guerre dont on parle beaucoup, pas assez à mon goût d'ailleurs, c'est la guerre au Proche-Orient, où là aussi on est sur une guerre de type colonial. Mais pour revenir sur la guerre coloniale justement que mène la Russie à l'Ukraine, est-ce que elle date pas d'hier, quoi? Elle date pas d'hier, elle date dès le début de l'époque impériale russe, c'est-à-dire le XVIIe siècle.
Oui. Oui, ce sont des rapports de type coloniaux qui sont entretenus avec ce pays et qui essayent de, comme j'ai dit tout à l'heure, qui essayent de se constituer en tant que nation, en tant que peuple, en tant qu'entité politique, je veux dire, et qui a toujours été sous la coupe en fait de cet impérialisme ou de ce colonialisme. Et mais par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'ils ont quand même été les premiers en 91, le 24 août 1991, avant tout le monde et avant même la dissolution officielle de l'URSS qui a eu lieu au mois de décembre de cette même année, à proclamer leur indépendance.
Parce qu'il y avait eu un accord entre le président russe, biélorusse, ukrainien et kazakh, si mes souvenirs sont bons, pour se débarrasser de la vieille URSS et de Gorbatchev.
Oui, alors bon, là aussi c'est très compliqué. Mais ce qu'on ne connaît pas, c'est qu'il y a eu des mouvements populaires. Dans ce pays, il y a eu des mouvements populaires à plusieurs reprises et il y a eu des changements de gouvernement. Il y a des alternances, en fait, dans ce pays assez souvent. Mais par exemple, il y a eu une révolution que peu connaissent en Ukraine qui s'appelle la révolution de Granit en 1990, c'est-à-dire des étudiants qui, déjà sur la place Maïdan, avaient protesté contre les fraudes électorales. Et à ce moment-là, ils avaient eu gain de cause. Bon, et ensuite de ça, tout le monde se souvient, 2004, 2014, etc. Bon, donc c'est vraiment un pays qui tente de se constituer. Moi, je dirais, les Palestiniens ont droit à un pays, ont droit à une nation, ont droit au respect de leur culture, de leur histoire, etc., ben, les Ukrainiens, pareil. Pareil, il n'y a pas de différence. Quand ils sont opprimés, oppressés et envahis, il y a un droit à la résistance qui est en tout cas inaliénable.
Quand tu disais que l'histoire de l'Ukraine est très compliquée, les Russes en jouent. C'est-à-dire que d'abord, ils disent que en fait, les nations slaves orientales, c'est-à-dire russes, ukrainiens et biélorusses, en fait, ne font qu'un. De par la langue qui serait très proche, disons, de par la religion orthodoxe, etc. Alors que la nation ukrainienne n'est qu'une invention de Lénine et de Trotsky et qu'il ne fait que rétablir la vérité historique en essayant, par la force, de réunifier la Rus' de Kiev. D'ailleurs, ils se revendiquent, pour Poutine, seule la Russie, la Grande Russie, ne peut se revendiquer de la Rus' de Kiev, alors que c'est là aussi très compliqué.
Oui, c'est excessivement compliqué. Moi, je dirais que, comme toujours, les pouvoirs essayent à la fois de ramener à eux un récit historique qui les arrange, d'une part, et d'autre part, parfois aussi, de se servir d'une sorte d'anthropologie. Hein, le pire, c'est cette sorte d'anthropologie, ou je dirais même d'eugénisme, dont s'est servi Hitler pour dire bon, il n'y a que les Aryens, et les Aryens sont un peuple supérieur, etc. etc. Bon, il y a des choses qui frisent dans le langage poutinien, il y a des choses qui frisent cette thématique. Hein. Bon. Mais ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que l'Ukraine a souffert d'une famine en 1919. Elle a souffert d'une deuxième famine qui était généralisée dans la nouvelle URSS en 1922. Ensuite, Staline a quasi ordonné la famine des paysans en 1933, hein, qui a provoqué près de, ça c'est un consensus historique maintenant qui le dit, qui a provoqué près de 4 millions de morts en Ukraine. Contrairement aussi à ce que dit l'histoire officielle de la Russie ou ce que dit Poutine dans ses discours, l'Ukraine et la Biélorussie sont les pays qui ont le plus souffert pendant la Deuxième Guerre mondiale. Parce que d'abord, c'était les terrains sur lesquels se sont affrontés l'Union soviétique et puis l'Allemagne nazie. Et puis, d'autre part, comme d'habitude, c'est dans l'armée de l'époque, la grande majorité n'était pas russe. C'était soit des Biélorusses, soit des Ukrainiens, soit des Bouriates, soit des Commis, soit d'autres peuples de Sibérie ou du Caucase. Et c'est ce qui se passe encore aujourd'hui. C'est-à-dire, et là, c'est ça aussi un des mensonges sur lesquels repose la soi-disant grande guerre patriotique, c'est que ce seraient les Russes qui l'auraient gagné, mais ça n'est pas vrai. Ce sont d'autres peuples qui étaient majoritaires au front dans ce combat. Et puis, il faudrait rentrer dans d'autres détails. C'est-à-dire qu'à l'époque, l'Union soviétique a aussi été aidée par les États-Unis de multiples manières, etc., etc.
Mais pour revenir sur l'une des tragédies malheureusement fondatrices de l'Ukraine actuelle, c'est le Holodomor qui, donc 1932-1933, qui, contrairement aux deux premières famines, celle de 19 et de 22, n'était pas voulu par les autorités soviétiques, puisque 19 et 22, c'était lié à la guerre civile. Là, 1932, c'était vraiment opéré depuis Moscou par Staline.
Ah, totalement, totalement. Il y avait des ordres, on a retrouvé des écrits, évidemment. Et c'était terrible, quoi. Là, c'était un point que il y a eu de l'anthropophagie, hein, l'anthropophagie dans les familles, c'est-à-dire les gens se mangeaient entre eux. Alors, non seulement les paysans ont été visés, bon, je peux pas tout raconter parce que c'est vraiment horrible, mais aussi les élites, en fait, les élites ukrainiennes. Parce que pour Staline, il y avait deux choses. C'est un, les paysans représentaient une classe arriérée qu'il fallait absolument supprimer parce que c'était le prolétariat qui devait représenter l'avenir du monde. Donc les paysans n'avaient plus rien.
Du marxisme politique de
Lénine. C'est ça, c'est ça. Et puis une certaine conception du marxisme. Et puis donc c'était une classe en quelque sorte parasite de l'histoire. Et d'autre part,
seulement les grands propriétaires, les fameux koulaks, hein, c'était vraiment toute la paysannerie.
Ah bah, il y a eu 4 millions de morts. On n'a qu'une douzaine de photos prises par un ingénieur autrichien. Mais quand on voit ces photos, on comprend tout de suite. On a aussi d'autres récits, etc. Et là, il voulait aussi liquider toute velléité d'autonomie de l'Ukraine en tant que telle. Donc ça a été les trois premières tragédies.
On est 3 ans avant la mise en place de la seconde constitution soviétique qui a fortement limité la souveraineté des peuples non russes, alors qu'entre 24 et 36, du coup, il y avait une forte autonomie des peuples non russes, où on pouvait parler la langue du pays, la langue populaire locale, etc., etc. Tout ça a été stoppé par Staline en 1936, mais ça a commencé dès son arrivée au pouvoir dans les années en 29-30.
Oui, oui, oui. Et puis, à la suite de ça, il y a une russification. Il y a une russification, c'est-à-dire que, bon, on déporte des gens allègrement. Les Tatars de Crimée, il y en a presque 200 000 qui sont déportés en 1944, si je me souviens bien. Même après, je vais dire aussi, après-guerre, il y a une autre famine aussi qui est très peu connue 46. En 1946-1947. C'est l'industrialisation, d'où le développement du Donbass industriel, la construction des grands barrages sur le Dniepr, etc. C'est l'industrialisation à marche forcée, oui. Et c'est la russification de tous ces territoires dans lesquels il peut y avoir un intérêt économique, c'est-à-dire le charbon, l'acier, l'hydroélectrique.
Qui était le cœur des plans quinquennaux.
Oui, exactement. Et on voit encore des affiches des années 1920 qui montrent l'Ukraine comme le cœur de l'Union soviétique. C'est assez étonnant, mais c'est en même temps assez parlant, quoi.
D'ailleurs, c'est pour ça que Khrouchtchev a donné, comme disent les propagandistes russes, la Crimée en cadeau à la République socialiste soviétique d'Ukraine, notamment pour rappeler le traité de 1654 qui avait, soi-disant, commencé une unité entre les Cosaques et la Russie moscovite. Mais pour en revenir à aujourd'hui, à la guerre en Ukraine, pourquoi on en est là? Pourquoi ça a commencé en 2014? En gros, pourquoi Poutine a voulu lancer cette guerre? Parce qu'on est quoi après la guerre de Géorgie en 2008, pourquoi il s'est dit « je vais me tourner vers l'Ukraine ».
Bon, alors d'abord, il faut bien comprendre où on était arrivé, la Russie, dans les années 90. Je dois avouer aussi qu'il m'a fallu passer par-dessus un certain nombre d'opinions toutes faites que j'avais, moi, en tête. C'est-à-dire, en fait, ce qui se passe, contrairement à ce que dit Poutine, Poutine qualifie l'effondrement de l'URSS en 89-91 comme grande tragédie la plus grande tragédie géostratégique du XXe siècle. Ce grand qualificatif masque, c'est que ce pays était totalement vérolé et gangréné du haut jusqu'en bas.
Et ce depuis Brejnev.
Et ce depuis Brejnev et même avant. Un des symptômes de ça, quand je dis gangréné, c'est-à-dire gangréné à la fois moralement, politiquement et financièrement. C'est-à-dire un des symptômes de ça, c'est l'arrivée au pouvoir en 82 de Andropov. Et Andropov, c'est qui? C'est le chef du KGB. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans l'ex-URSS, le KGB, en fait, c'était le pivot du pouvoir. D'une part parce qu'il avait des dossiers sur tout le monde, d'autre part parce qu'il avait des compromates sur tout le monde, y compris les gens du bureau politique, et aussi et surtout parce que comme il avait des agences partout dans le monde, il permettait le blanchiment de l'argent de la nomenclatura. Bon, et en plus, ce qu'on a du mal à imaginer ici, c'est que le FSB, c'était aussi une armée. Ils avaient une armée. Comme aujourd'hui, le KGB a une armée. C'est-à-dire, c'est pas comme en France, par exemple, où il n'y a qu'une seule armée. En Russie, encore aujourd'hui, il y a trois armées. Il y a l'armée officielle, il y a l'armée du FSB et il y a la Rosgardia.
La Rosgardia,
c'est la garde personnelle de
la garde prétorienne, quoi.
La garde prétorienne de Poutine. Ils ont des chars, des avions, etc. Hein. Se dire bon, c'est pas n'importe quoi. Donc à cette époque-là, de facto, le KGB a le pouvoir, quoi. Et comme c'est pourri, tout le monde sait comment se passer. Il y a eu des scandales, le coton, etc., etc. Comment se passer le plan du haut jusqu'en bas. Ils se mentaient les uns aux autres, comme aujourd'hui d'ailleurs certains généraux mentent sur ce qui se passe sur le front et se font limoger dans les derniers jours qui se sont passés là à l'instant. Et qu'est-ce qui se produit? C'est que ce sont des mafias. Le KGB était de fait une mafia, mais une mafia étatique, et qui, en fait, se privatise, et ça donne un certain nombre de mafias au niveau local, régional, national, etc., sur lesquelles les oligarques vont s'appuyer pour construire leur pouvoir. Donc c'est un régime totalement mafieux qui arrive dans les années 90, qui est ensuite matiné de néolibéralisme. Hein. C'est le choc de 92. Là. Et moi, je me souviens, en 92, j'étais à Moscou et j'avais un copain qui me disait « Attention, quand tu sors le soir, tu ne vas pas dans tel et tel quartier parce que tu risques de te prendre une balle perdue. » Ça, je m'en souviens comme si c'était hier. Donc c'était un pays effondré, mais criminellement effondré. Je veux dire,
on est loin du capitalisme d'État, quoi.
On est très, 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 très loin du capitalisme. Ça n'a plus rien à voir, quoi. C'est un pays effondré comme il peut y en avoir dans le monde en ce moment, c'est-à-dire où les mafias règnent, quoi.
Le capitalisme d'État, l'URSS n'est plus un capitalisme d'État depuis quand? d'après toi.
Ouais, non, mais ah bon, après, Jean, ça, c'est un peu...
Non, mais pour donner pour bien, des dates, parce que si tu veux. Je pose cette question-là parce que ce qu'on dit, j'allais y venir, c'est que Poutine est un ancien du KGB et c'est un oligarque. Et d'après certaines sources... On dit que Poutine est l'un des hommes les plus riches au monde.
Oui, moi je le qualifie. Oui, avec oligarque, c'est un peu. Bon, ça se discute. Mais ceux qui prennent le pouvoir, effectivement, dans les années 90, ce sont les oligarques. Hein. Il y en a sept, dont j'ai oublié les noms parce que ce sont des noms russes. Mais ils prennent le pouvoir et ils fabriquent Eltsine. En 96, Eltsine est élu grâce aux oligarques. Hein. Mais, par exemple, juste un mot sur la trajectoire de Poutine. Ce n'est pas vraiment un oligarque. C'est lieutenant-colonel du KGB, c'est rien du tout l'establishment du KGB. Bon, il revient à Saint-Pétersbourg, qui est sa ville natale. Là, il intègre l'administration municipale de Sobchak. Donc, et en même temps, il est chargé des affaires extérieures de la ville de Saint-Pétersbourg, qui est la deuxième ville de la Russie à l'époque.
Oui, il est maire adjoint ou en relation extérieure.
Voilà, c'est ça. Mais là, il commence son trafic. Il commence son trafic et il se lie avec la mafia de Saint-Pétersbourg. C'est là qu'il commence à s'enrichir. Donc là, il a déjà trois entrées. Il a l'entrée étatique à travers l'administration de Saint-Pétersbourg. Il a l'entrée KGB et il a l'entrée mafieuse.
Mais Sobchak, il travaille avec Sobchak, le maire de Saint-Pétersbourg de l'époque, ou il fait ça derrière son dos?
Bon, ça, c'est difficile à savoir. Mais bon, il y a comme toujours dans ces systèmes-là, il y a une complicité de fait. Mais évidemment. C'est-à-dire, bon, quand ils revendaient les matières premières pour récupérer des dollars, etc., ça pouvait pas non plus passer inaperçu. Donc bon, mais ça qu'il faut bien comprendre. C'est-à-dire qu'en 92, il a déjà ses trois atouts. Hein, et c'est ça qui explique que, en 96, il se retrouve dans l'administration présidentielle, en 96, 4 ans plus tard. En 98, il devient chef du FSB, 2 ans plus tard. Hein, et un an plus tard, il se retrouve Premier ministre. Donc c'est une ascension fulgurante. C'est une ascension fulgurante parce qu'il a ses trois pieds, si j'ose dire. Avec lesquels il a la puissance, il a toutes les puissances, il a la puissance étatique et bureaucratique, il a la puissance financière, il a la puissance armée du FSB KGB. Et donc là, et comment il prend le pouvoir? Il prend le pouvoir parce que Yeltsin est un grabataire, mais aussi c'est parce que il a su le circonvenir, lui et sa famille.
L'isoler
et mettre la main dessus. Et surtout, c'est que il est venu au pouvoir fin 99 en déclenchant la seconde guerre de Tchétchénie parce que il n'avait pas digéré la défaite de la première guerre.
On revient au caractère colonial de la Russie.
Ben oui. Et puis, comment il déclenche cette Seconde Guerre mondiale? Ce sont des attentats qui sont, aujourd'hui, on soupçonne fort le FSB de les avoir lui-même provoqués, avec des centaines de morts. Parce qu'on a... Enfin, je ne veux pas rentrer dans les détails, hein, mais bon, Hélène Blanc explique ça très bien. Donc, il se construit sur ses trois pieds, et la première chose qu'il fait, c'est de déclencher la Deuxième Guerre mondiale.
Deuxième Guerre de Tchétchénie.
Tchétchénie.
Mais quand tu dis le FSB a provoqué des attentats. On parle également de l'attentat de Beslan, de l'école de Beslan.
On parle de tous les attentats qui ont eu lieu au mois de septembre.
Parce que Beslan, ça a beaucoup marqué ici en Ouest, en Occident.
Oui. Ouais. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails. Bon. Il prend le pouvoir sur une guerre. Et on sait ce qu'est devenu Grozny. Grozny est déclarée la ville la plus martyrisée par l'ONU, la plus détruite par l'ONU. Donc, le 24 février 2022, quand il envahit à grande échelle l'Ukraine, c'est sa 8e guerre. Il en est à sa 8e intervention militaire, si on veut être plus précis.
Entre 2000 et 2014, on est à déjà 8 guerres faites par...
En 2022, on est déjà à 8 interventions. On a la deuxième guerre de Tchétchénie, on a la Syrie, on a le Kazakhstan, on a la Géorgie, et j'en oublie. D'accord. Parce que je n'ai pas tout en tête.
Bon. D'accord. Donc, du coup, qu'est-ce que tu as vu, toi, sur place ?
Juste un mot, Jean. Les Occidentaux, ils ont vu ça depuis le début, depuis les années 2000, qu'il y a des interventions militaires de Poutine. Et depuis, ils font rien. Ils font même l'inverse. C'est-à-dire que, par exemple, le capitalisme allemand est très heureux de financer les gazoducs Nord Stream 1 et puis après Nord Stream 2 pour se mettre en position de distributeur de gaz pour toute l'Europe. Mmh.
Mais donc du coup, parce qu'on va bientôt avoir la pause, pour en revenir à ce qui se passe actuellement, toi, qu'est-ce que tu as vu sur place ?
Alors moi, je n'ai pas été sur le front. Je voulais aller à Kharkiv et puis je n'ai pas pu y aller.
Mais même à l'arrière, à Kiev.
Ce que j'ai vu, soit à Kiev, soit à Lviv, ce sont des personnes qui sont, en général, enfin, la plupart des jeunes, qui sont plutôt de tendance anarchiste, parce que je pense que dans ces pays-là, c'était la manière la plus opportune, on va dire, de s'opposer au régime et qui se déclarait lui-même jusqu'à une certaine époque communiste.
On est loin de la propagande russe, des ukraino-nazis, etc.
Quoi. Je veux dire, bon, tout ça, ça a été une propagande.
Non, parce que je dis ça parce que on va en reparler après. Dans la gauche française, beaucoup malheureusement disent. Les Ukrainiens, c'est l'extrême droite, ce sont des ukraino-nazis, Azov et compagnie. Ouais. Donc, en fait, toi, tu dis, c'est plus, il y a beaucoup d'anarchistes. Qu'est-ce que tu as vu d'autre ? Déjà, comment vit la population sur place ?
Moi, j'étais dans les grandes villes. Kiev, c'est la ville la plus protégée, donc c'est pas. Comment dire ça,
t'as été à Dnipro ?
Non, j'ai pas été à Dnipro. J'étais seulement à Kiev et à Lviv. Donc c'est pas une image correcte de tout le pays, parce que ce sont des grandes villes, avec Lviv c'est complètement à l'ouest, donc ce sont des villes protégées. Donc,
pourtant Kiev c'est à deux pas de la frontière biélorusse, là où sont rentrés les chars dans les tout premiers jours, et malgré ça ils arrivent à vivre plus ou moins normalement ?
Bien sûr, parce que la ville est protégée par des systèmes patriotes, puisqu'il y a toutes les ambassades, il y a le gouvernement, etc. Donc la ville est hyper protégée. Donc moi j'ai assisté, bon, on avait des alarmes, etc. Mais quelquefois on était obligé de descendre. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passait à l'est, à ce moment-là, dans le Donbass ou à Kharkiv. Rien, strictement rien à voir. Moi, ce que j'ai vu, ce sont plein de jeunes et aussi des féministes à Lviv qui essayent d'aider autant que faire se peut à la fois les populations qui sont sur le front et puis leurs amis qui sont engagés dans les troupes ukrainiennes.
Et comment elles le font concrètement ?
En collectant des fonds, en collectant des vêtements, en collectant des matériels, tout ça, tout ce que font certaines organisations d'ailleurs aussi en France. Mais pour revenir sur ce que tu disais par rapport à la mythologie qui court encore dans certaines organisations qui se disent de gauche, et ben ils reprennent la propagande poutinienne. Il n'y a jamais eu plus de 2% de voix d'extrême droite en Ukraine, alors qu'ici, on en est à combien ? 30% ?
35.
Oui, 35% de voix. Le régiment Azov, il a été décimé au moment du siège de Mariupol. Il n'en reste pas grand-chose. Je le répète, j'étais pas tout seul. On a rencontré aussi des engagés volontaires qui se proclamaient anarchistes, qui se disaient anarchistes, qui se revendiquaient de l'anarchie. Ça veut dire, qu'il y a, en tout cas dans la jeunesse, une conscience de ce qui se produit, quoi.
Les soldats ukrainiens, est-ce qu'ils sont vraiment en manque de matériel ? Comment ça se passe ?
Je veux dire, bon, ça, c'est toute la tactique des Occidentaux et notamment des États-Unis. C'est-à-dire, moi, j'ai écrit depuis la fin 2022 que les Occidentaux soutiennent l'Ukraine comme la corde d'un pendu. Je l'ai écrit. On peut le vérifier. C'est-à-dire que j'avais compris assez rapidement, pour le résumer, la soi-disant stratégie de Biden, c'était d'affaiblir la Russie, comme il disait, mais certainement pas d'aider l'Ukraine à repousser les troupes à l'extérieur du pays. Certainement pas. Et donc, et ce faisant, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a permis à l'armée de Poutine de se réorganiser, de se réarmer, et même plus que ça aujourd'hui, puisque tout le pays est en économie de guerre. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Donc la stratégie de Biden, elle a produit exactement l'inverse de ce qui était proclamé, malheureusement.
Tout de suite, la pause musicale, et on revient derrière, avec le rôle justement de l'international et un focus sur la gauche française.
Одного ранку, ще на світанку, земля здригнулась і враз закипіла наша кров, ракети з неба, колони танків, і заревів старий Дніпро. Ракети з неба, колони танків, і заревів старий Дніпро. Ніхто не думав, ніхто не бачив, яка насправді була українська лють, катів проклятих, безжально мочим тих, що на нашу землю пруть. Катів проклятих, безжально мочим тих, хто на нашу землю пруть. В теробороні найкращі хлопці, самі герої воюють у наших ЗСУ і джавеліни. І байрактари за Україну б'ють русню. І джавеліни, і байрактари за Україну б'ють русню. А наші люди, а українці проти русні об'єднали вже цілий світ. І скоро зовсім русні не буде, а буде мир на всій землі. І скоро зовсім русні не буде, а буде мир на всій землі.
Vous êtes de retour sur Fréquence Paris Pluriel en direct de 12h30 à 13h30. Donc on est toujours avec Jean-Marc Royer. Donc là, on va passer sur le rôle de l'international dans cette guerre. Juste avant la pause et juste avant donc Béla Tchao en ukrainien, on était sur le fait que l'Occident n'aide pas vraiment l'Ukraine. Et d'ailleurs, lors du tout début, juste avant la guerre, c'est pas de l'aide militaire qu'on proposait à l'Ukraine, c'était une porte de sortie pour le président, pour Zelensky. On vous propose un taxi, quoi.
C'est ça, oui. C'est-à-dire que, contrairement à ce qui a couru, quoi, c'est-à-dire que dans les premières semaines de l'invasion, les Ukrainiens ont eu à se défendre par eux-mêmes. Et c'était, c'était plus facile, on va dire, qu'aujourd'hui, parce qu'à l'époque, l'armée russe était une armée complètement désorganisée et elle aussi gangrénée par la corruption. C'est-à-dire, bon, ils avaient des équipements qui n'étaient pas en nombre suffisant, qui n'étaient pas adaptés. Et leurs radios, c'était des radios grand public qui venaient de Chine, et tout à l'avenant. Quoi. Ce qui fait que les Ukrainiens, en se mobilisant et avec leur brigade territoriale, ont pu, en tout cas dans le nord, ont pu arrêter la colonne qui faisait près de 60 km de blindés russes qui étaient les uns derrière les autres et la décimer, ce qui fait qu'ils ont été obligés de retourner en marche arrière. C'était l'armée de l'époque. Bon, alors ceci dit, ils ont quand même envahi tout le sud à partir de leur base de Crimée.
Mais juste sur cet épisode surréaliste, je suis pas militaire et tout, mais c'est complètement con de rentrer en une seule colonne. Normalement, c'est pas stratégique.
En fait, ils pensaient que le pays allait les accueillir à bras ouverts. Ils pensaient que ça allait être aussi facile que ce qu'ils ont fait en Crimée. Et donc, pour eux, il s'agissait simplement d'aller droit vers la capitale et puis de prendre tous les ministres et de mettre d'autres gouvernants à leur place, quoi. Et ils pensaient faire ça en quelques jours. Bon, et ils ne se sont pas rendus compte vraiment de la situation.
Comment on peut faire une telle erreur ? Comment on peut croire à ce point-là que, genre, les Ukrainiens allaient laisser tomber leur indépendance pour retourner dans le giron de la Grande-Russie.
Mais ça, c'est aussi un symptôme de la corruption à tous les échelons. C'est pour ça que Shoigu, l'ancien ministre, il a été gentiment écarté du ministère de la Défense il y a quelques mois, qui a permis de mettre en procès un certain nombre de ses subalternes. Je veux dire, à l'époque, c'est encore ce système ex-soviétique, quelque part, qui est là et dont les renseignements militaires racontent des bobards à Poutine et à son entourage. Ceci dit, il faut bien aussi comprendre une chose, c'est que les gouvernements occidentaux et la gauche, y compris la gauche entre guillemets française, avaient aussi cette vision fantasmatique qu'ils avaient de l'URSS dans les dernières années de ce pays. Et tout le monde disait que c'est la deuxième armée du monde après les USA, etc. Et la CIA elle-même avait fait un rapport devant le Congrès quelques jours avant l'invasion en disant au Congrès américain dans 4 jours, 4 jours après l'invasion, le gouvernement de Kiev va tomber. Et y compris le chef des renseignements militaires en France avait dit la même chose. Il a été limogé par Macron 6 mois après. Donc c'est dire à la fois, ce qui s'est passé, c'est un symptôme à la fois de la gangrène morale, politique, financière qui régnait à l'intérieur même de cette armée aussi, et puis de la vision fantasmatique, je dis bien de la vision fantasmatique qui perdure de l'ex-URSS d'il y a 30 ans avant. Quoi.
Tout le monde a été intoxiqué par la propagande, et y compris Moscou, par sa propre propagande issue de l'Union soviétique, en fait.
Exactement, exactement.
Mais sur le rôle de l'international, on parlait des Américains qui n'aident pas. Alors, est-ce que tu peux nous répondre sur 2 choses ? Les Américains qui n'aident pas et les Allemands qui font, et les Européens en général, qui font n'importe quoi. Et quand je dis les Européens, je mets de côté les Baltes, les Polonais qui, eux.
Non, alors, on ne peut pas dire non plus que les Américains, enfin que les États-Unis n'aident pas. Ils ont fourni un certain nombre de matériel, les Occidentaux aussi, dans une
mesure. Oui, mais toujours avec 6 mois de retard.
Voilà, c'est ça. Pas suffisant
et avec du retard.
Toujours.
Mais pourquoi ils font ça ? Parce qu'ils continuent à le faire. Hein. Les HIMARS, ils le demandent depuis plus d'un an et ça n'arrive que maintenant, sachant que vers janvier-février, ça peut se terminer. Pourquoi ?
Les États-Unis, encore plus que les Occidentaux et même les partis de gauche en Occident, ont toujours eu une vision eux aussi fantasmatique de l'URSS. Les renseignements qu'ils pouvaient avoir sur ce qui se passait en URSS étaient vraiment frelatés, quoi. Ils avaient pas de bons services, ils avaient pas une bonne vision de ce qui se passait vraiment en URSS et même après l'éclatement de l'URSS. Donc d'une part, il y a ça. Et d'autre part, bon, il faut dire qu'à la tête des États-Unis, il y a quelqu'un qui est maintenant extrêmement vieillissant. Peut-être que quand il aura passé le pouvoir à Trump, on dira officiellement qu'il avait peut-être une maladie qui atteignait ses facultés cognitives, un petit peu comme quand Mitterrand a lâché le pouvoir, on a appris qu'il avait un cancer de la prostate depuis 1981. Bon, ça c'est possible, mais écoute, c'est quelqu'un qui s'en va en répétant un mantra, pas troisième guerre mondiale. Et il a
tout le monde le dit, même maintenant.
Mais maintenant, oui, maintenant, c'est autre chose. Mais lui, il dit ça depuis le début, alors que si les Occidentaux avait fourni suffisamment d'armes à l'Ukraine en 2022, ils ont quand même repoussé non seulement au nord, mais aussi à l'est. Et puis, ils ont repris toute une partie de l'oblast de Kherson, hein, c'est-à-dire la rive droite, la rive ouest du Dniepr au sud. Donc, si à ce moment-là, les Occidentaux, y compris les États-Unis, avaient fourni suffisamment d'armes et de munitions à l'Ukraine, il aurait été beaucoup plus, il aurait été assez facile de repousser les armées de Poutine hors des frontières. Et c'était un état de légitime défense. J'en profite pour dire que il est bienvenu qu'un pays ou qu'une population agressée, militairement agressée, ne regarde pas à la couleur des armes comme le faisaient les Espagnols pendant la guerre civile, hein, qui avaient besoin d'armes eux aussi pour se défendre et qui ne regardaient pas la couleur, ou bien la résistance française par rapport aux nazis qui pleuraient des armes auprès des Britanniques lorsqu'ils étaient affrontés aux forces nazies. Quoi.
Mais toujours cette question, pourquoi ils ne le donnent pas? Et surtout, ils ne donnent pas les armes au bon moment et avec la bonne quantité. Et donc, ce qui ramène une deuxième question, c'est-à-dire, quand on entend, sur tous les plateaux, sur un plateau en particulier, je pense à LCI, on donne des milliards à l'Ukraine, des centaines de milliards d'armes, encore il y a quelques temps, les États-Unis auraient donné 65 milliards d'armes, etc. Déjà, ces chiffres, qu'est-ce que ça cache? Et pourquoi ça arrive aussi tard?
Non, mais c'est toujours la même chose, c'est-à-dire que les... Les États-Unis, la politique de c'est aussi un empire, hein, c'est-à-dire les États-Unis, c'est aussi une puissance impérialiste. Bon, ils ont depuis longtemps acté que leur principal champ d'intérêt, c'est l'Indo-Pacifique. Donc pour eux, contrairement à ce qui s'est passé au XXe siècle, pour eux, il s'agit, de ménager leurs dépenses, leurs forces, etc., par rapport à ce qui se passe, et surtout d'éviter qu'il y ait une coalition qui se forme entre la Chine et la Russie. Et donc, leur calcul, c'était uniquement, en quelque sorte, de faire durer la guerre pour affaiblir Poutine et le pays tout entier. Et le problème, malheureusement, c'est que sur tous les plans, ça produit exactement le contraire. C'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est maintenant l'armée est devenue une armée aguerrie, plus moderne, qui en plus a des millions de buts grâce à la Corée du Nord, qui a eu tous ses drones Shahed par l'Iran, qui en sous-main a les composants électroniques qui leur sont indispensables par la Chine et par d'autres pays qui les aident à contourner les sanctions. Donc ça produit exactement l'inverse de leur géostratégie.
Mais ok, ça c'est la vision états-unienne. Mais la vision européenne, notamment celle de l'Allemagne, de la France, de la Grande-Bretagne, enfin, ils ne peuvent pas avoir cette vision. Donc, c'est quoi leur but dans cette guerre?
Alors, pourquoi l'Allemagne est en crise au niveau politique et économique en ce moment? D'une part, parce qu'ils étaient extrêmement dépendants de la Russie pour leurs ressources énergétiques. Et d'autre part, parce que le premier marché de l'Allemagne, c'était la Chine. Donc, de tous les points de vue, ils sont dans l'embarras et en plus, ils ont perdu le gaz. Donc là, cerise sur les gâteaux, c'est que l'Allemagne se met sous le parapluie des États-Unis et de l'OTAN et ne fait rien d'autre que ça, même s'ils ont voté récemment des crédits pour se réarmer, etc. Donc, les gouvernements occidentaux, depuis longtemps, eux, ils ont des intérêts, je veux dire, bon, y compris en France, il y a Thalès, il y a Safran, il y a Dassault, il y a Leroy Merlin, il y a Auchan, etc., qui ont tous des intérêts.
Qui s'est retiré récemment, mais ouais. Qui était jusqu'à maintenant l'un des premiers, voire même le premier, la première chaîne de magasins en Russie, mais EDF, qui avec Rosatom, essayait jusqu'à encore aujourd'hui de construire une grande entreprise dans le milieu nucléaire, dans le domaine nucléaire.
Oui, alors ça, c'est une collaboration de 50 ans. J'ai déjà écrit là-dessus, entre la France et la Russie, au niveau du nucléaire, ce qui a permis effectivement à Rosatom de devenir la plus grande entreprise du monde s'agissant de la construction des centrales nucléaires.
Donc, quid des sanctions ? Est-ce que c'est des fausses sanctions, des sanctions, mais pas vraiment des sanctions non plus ?
Mais Jean, pour revenir à ta question, si tu veux, précédente, c'est que, en fait, l'attitude des Européens, ça a été d'essayer de ménager leurs intérêts capitalistes en Russie. Le maximum et jusqu'au bout. Et aussi bien l'Allemagne que la France que d'autres pays, ils ont essayé. Et c'est pour ça aussi qu'ils fermaient les yeux devant les interventions militaires de Poutine.
D'ailleurs, le Kazakhstan, où ça a été vite fait cassé. La révolte populaire au Kazakhstan a été liquidée par l'armée russe à la demande du président kazakh de l'époque. Et ça a été soutenu de loin quand même par l'impérialisme occidental.
La cerise sur le gâteau, c'est ce qui s'est passé en Azerbaïdjan récemment, la COP à Bakou. C'est-à-dire que tout le monde a été à Bakou, mais personne n'a dit, et d'ailleurs ça aurait été difficile, parce que, la Russie continue à vendre son pétrole et son gaz grâce aux pipelines et aux gazoducs qui traversent l'Azerbaïdjan. C'est un député d'ailleurs qui a fait remarquer que l'Azerbaïdjan vendait beaucoup plus de gaz et de pétrole que s'ils étaient en capacité de produire depuis qu'il y avait les sanctions. Donc on a compris où était le souci, quoi.
Oui, en gros, c'est un véritable blanchiment d'argent, blanchiment de pétrole, d'or noir pour le coup. C'est-à-dire que les Russes font passer le gaz et le pétrole par les pipelines d'Azerbaïdjan, et l'Azerbaïdjan nous le vend en tant que gaz azerbaïdjanais, et l'usufruit revient à Moscou.
Exactement. Comme les deux premières années, on a continué à commercer, parce qu'il y avait des contrats qui étaient en cours avec la Russie, et l'Europe a versé 120 milliards de dollars, c'était la première ou les deux premières années, c'est-à-dire deux fois le budget annuel de l'époque de l'armée de Poutine. Aujourd'hui encore, les Européens ont des échanges via des pays tiers avec la Russie.
L'Inde notamment.
Et bon, il y a l'Inde, etc., qui servent d'intermédiaires, ou les pays du Moyen-Orient, la Turquie, etc., etc. Donc, ce que je voulais dire, c'est que la raison principale qui fait que depuis 25 ans, les Européens n'ont rien fait par rapport aux velléités coloniales de Poutine, c'est qu'il y avait de gros intérêts derrière, de gros intérêts. Je veux dire, les turbines Arabelle de Alstom, c'est elles qui sont installées par Rosatom dans tous les contrats qui passent dans le monde entier. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a une centrale construite par Rosatom, ça fait rentrer 1 milliard d'euros dans les caisses des entreprises françaises, etc., etc. C'est-à-dire, c'est ça la base de la chose. Après, il y a aussi autre chose, c'est que ils ont tous liquidé les défenses des pays, ce qui fait qu'aujourd'hui, si ne serait-ce qu'un des pays occidentaux avait eu à affronter les armées de Poutine.
Du coup, quand ils disent qu'ils aident militairement en envoyant des armes, déjà, dis-moi si j'ai raison. En fait, on donne aux Ukrainiens les armes qu'on a déjà et on achète de nouvelles armes avec les crédits qu'on dit donner à l'Ukraine. Quoi.
Oui, c'est la question que tu posais tout à l'heure. Par exemple, dans le dernier paquet d'aide des États-Unis, il y a eu 60 ou 65 milliards de dollars qui ont été votés. Mais en fait, il n'y a que 15 milliards qui arrivent aux Ukrainiens parce que le reste, c'est pour financer l'industrie de l'armement aux États-Unis qui elle-même reconstitue les stocks. Mais le scandale, c'est qu'ils ont des milliers de chars qui sont en stand-by aux États-Unis qui sont stockés. Ils ont des milliers de munitions, que ce soit HIMARS ou les autres. Ils ont des centaines et des centaines d'avions qui, eux aussi, sont stockés et qui pourraient donner. Et ils ne le font pas. Les Occidentaux, bon, eux, ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas les moyens parce que les armées des pays occidentaux a été réduite à peau de chagrin, quoi.
On va très vite avancer sur la gauche française. Elle aussi, elle est intoxiquée. Et toi qui fais de la psychanalyse, est-ce que c'est le fait de n'avoir pas vu venir la chute de l'URSS, je pense notamment à certains groupes, de n'avoir pas défendu l'URSS au moment de sa chute, pas pu avoir le temps de défendre l'URSS au moment de sa chute, qui fait qu'ils essaient de se rattraper maintenant en disant toutes sortes de conneries, notamment... la Russie ne fait que de se défendre, elle est attaquée par l'OTAN, etc., etc.
C'est absolument invraisemblable, je veux dire, bon...
Pourquoi la gauche française, et même, je dirais plus, les gauches occidentales, se fourvoient à ce point-là? Mis à part certains, je pense, au NPA anticapitaliste.
Je ne sais pas, c'est difficile à dire, mais ce qui est hallucinant, c'est qu'ils reprennent exactement les mêmes arguments de Poutine en disant « c'est l'OTAN qui a attaqué », etc. Alors, ce qui est complètement, factuellement complètement faux. C'est vrai que l'OTAN, depuis la chute de l'URSS, a enregistré un certain nombre d'adhésions, ça c'est vrai. Mais les dernières adhésions de poids, elles datent de 2009. Et à ce moment-là, il y a eu un discours de Poutine à Munich, ok, mais je dirais... les armées de l'OTAN n'ont pas attaqué la Russie, et d'autre part, quand la Suède et la Finlande, dans les mois qui viennent de s'écouler, ont adhéré à l'OTAN, Poutine n'a pas moufté. C'est-à-dire, bon, alors que ce sont deux pays quand même qui, en tout cas pour la Finlande, qui partagent 1300 km de frontières avec la Russie, donc là, il a rien dit, quoi. Donc cette histoire, et moi je ne vais pas défendre l'OTAN, hein, c'est ce que ce soit clair et net, je veux dire, bon. Mais là, bon, je crois que s'il fallait défendre quelqu'un, c'est la population ukrainienne qui est en train de souffrir et les autres populations qui sont en relais de force dans l'armée de Poutine.
Qu'est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs qui sont bien de gauche? Justement, tu l'abordais tout à l'heure en disant il faut donner des armes à l'Ukraine et il ne faut pas regarder la couleur des armes, le drapeau des armes.
C'est-à-dire, y a une rupture de mémoire. Moi, je me suis battu... contre l'invasion du Vietnam, et, contre la guerre du Vietnam. Et la chose la principale, c'est qu'on prenne conscience, un, qu'il s'agit d'une guerre coloniale, et deux, que l'Ukraine ne pourra s'en sortir que s'il y a un soutien international et des armes qui arrivent dans ce pays. Et s'il y avait un soutien international, comme il y a eu à l'époque pour soutenir le pays vietnamien qui était en guerre contre le colonialisme et contre l'impérialisme US, s'il y avait un tel mouvement, c'est évident que ça serait un atout majeur. Et c'est l'inverse qui se produit, c'est-à-dire que Poutine manœuvre tellement bien qu'il y a la Hongrie, il y a la Slovaquie, peut-être, j'espère que non, la Bulgarie. Demain, on ne sait pas si en France, il n'y aura pas Marine Le Pen. Donc il arrive à avoir des alliés de fait avec des gens d'extrême droite qui arrivent en Europe. Donc c'est lui qui est sur...
Il faut bien marteler que Poutine est un grand allié de l'international fasciste. Et pour compléter notre émission, Jean-Marc Royer va nous lire un message qu'il a reçu ce lundi soir, un message d'Ilia, habitant de Kharkiv, qui est l'une des villes les plus touchées par le début d'offensive russe actuelle.
Je lis le message d'Ilia. Le régime contemporain du Kremlin est extrêmement proche du fascisme. Il utilise le nihilisme, par exemple en finançant l'extrême droite dans le monde entier, et la résignation, entre parenthèses, en soutenant par exemple les campistes de gauche qui vendent la nostalgie d'un passé qui n'a jamais existé. Point. Le plan de Moscou est d'aider l'extrême droite à arriver au pouvoir en Europe occidentale, laquelle vendra la peur de la guerre à la population et donnera à Poutine tout ce qu'il veut. L'ordre de sécurité mondiale est en train de changer en ce moment. Il n'est donc pas nécessaire de discuter de bêtises passées. L'aide hypocrite des pays riches à l'Ukraine n'est pas suffisante. Les antifascistes, l'extrême gauche et les progressistes devraient demander plus d'armes pour l'Ukraine.
mais aussi demandait l'expropriation des biens de l'État russe, des oligarques et des banques pour soutenir davantage l'Ukraine. Vous devriez l'exiger. Moscou achète beaucoup de biens militaires d'occasion en raison des sanctions directes. Les camarades devraient exiger des sanctions économiques indirectes contre les partenaires de la Russie qui les aident à produire des drones modernes et à tuer plus d'Ukrainiens. Ces deux exigences, expropriation des biens et sanctions du commerce illicite, sont contournées par le système capitaliste. Donc, la gauche est la seule puissance qui puisse les gérer. Pour une paix durable et juste, il faut une position forte de l'Ukraine. Aide militaire, sanctions économiques et expropriation. Le Kremlin n'a aucun intérêt à arrêter cette guerre. Elle ne peut donc être arrêtée que par la force. Et encore une chose, Jean-Marc. Malheureusement, la majorité de la population russe n'est pas opposée à la guerre. La raison est profondément enracinée dans le passé impérial russe qui n'a pas été suffisamment mis en cause pendant les périodes de transition néolibérale. La meilleure chose que les générations futures puissent obtenir, c'est que les générations actuelles perdent cette guerre impériale. De plus, l'opposition russe traditionnelle en exil, par exemple Navalnaya, ne soutient pas l'augmentation des sanctions économiques, la défaite militaire du Kremlin, la restitution des territoires occupés. C'est donc triste pour moi de le dire, mais il semble que ce ne soit pas seulement la guerre de Poutine, mais que ce soit aussi la guerre des élites industrielles et financières russes soutenues par un ressentiment populaire impérial.
Et pour soutenir les Ukrainiens, vous pouvez tous les mercredis manifester avec eux entre Rambuteau et la Fontaine des Innocents. C'est à partir de 18h30 tous les mercredis et le samedi à 15h30. Merci et à bientôt.
Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitédesluttes.info.